Alors maintenant, je vais vous raconter une rencontre que j'ai faite ce 1er novembre à l'Expo de la Garonne. J'ai rencontré un jeune couple de Catalans. Et on a parlé, devinez de quoi. Et j'ai été très étonnée de m'apercevoir de, je dirais de vérifier, mais de m'apercevoir plutôt de l'état politique de l'Espagne que j'avais, je vous l'avoue, pas du tout tilté, pas du tout intégré. Je m'en étais pas aperçue. Moi, Podemos et tout ça, ça m'enchantait, mais j'avais pas réfléchi plus loin que ça. Eh bien, mes jeunes Catalans, eux, ils ont réfléchi. Et il se trouve que dans le diplôme que j'ai reçu le lendemain, eh bien, j'ai retrouvé la confirmation de ce qu'ils m'ont raconté. Et je vais vous raconter ça, je vais vous lire ça. Alors, ben, c'est un article de Sébastien Bauer, qui est le directeur d'une revue catalane, Quaderne de les Idees, les Artes et les Lettres, professeur associé à la Toulouse Business School. Alors, s'il m'écoute, j'espère qu'il pardonnera mon accent pas du tout catalan, déjà qu'en espagnol, j'ai du mal.
Dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted?
Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparle usted.
Dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted?
Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparle usted.
Ahora
le vas a chupar a tu marido el ombligo, a tu marido el ombligo, y hasta quisiera llorar, ay mamá.
Cuando a tu marido le encuentro durmiendo, le arranco las piernas y me voy corriendo.
Cuando a tu marido le encuentro dormido, le arranco las piernas y me voy corriendo.
dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted?
Señora, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparle a usted.
Voilà, Sébastien Boer, ce qu'il nous dit de la situation catalane. Opposé sur la question de l'indépendance catalane, les dirigeants politiques au pouvoir à Barcelone et à Madrid se ressemblent. Ils estiment que leur intransigeance fera oublier les scandales de corruption qui les accablent. Un bouillon de culture propice aux surenchères, y compris répressive. Imaginer une solution au conflit implique au contraire de remonter aux racines de la crise. Vu d'Europe, les positions des partis opposés sur la question catalane peuvent paraître étranges, voire erratiques. Elles obéissent pourtant à deux stratégies que l'on perçoit mieux en abandonnant la grille de lecture « séparatisme contre État central ». Non pas qu'elle soit erronée, chacun s'en réclame, mais elle masque un autre problème, bien plus profond. La Constitution espagnole n'a pas évolué depuis son adoption en 1978, 3 ans après la mort du dictateur Franco. Perdant peu à peu le contact avec la réalité de la société qu'elle devait structurer. La lecture séparatiste n'explique pas pourquoi le Premier ministre espagnol incendie la Catalogne le 1er octobre, puis appelle à y tenir des élections, ni pourquoi son homologue catalan déclare une indépendance sans aucun effet réel et qui mécontente autant ses partisans que ses adversaires. La réponse est que la crise catalane constitue une forme de territorialisation de conflits nés ailleurs. Depuis la mise en œuvre de politiques d'austérité draconienne en 2011, l'Espagne connaît une période d'instabilité qui se traduit par des crises de plus en plus graves. Mouvement d'occupation des places, Puerta del Sol, etc. en 2011, crise de la représentation parlementaire en 2015 et 2016, conduisant à 315 jours sans gouvernement, les affaires courantes étant expédiées par un conseil des ministres sortant. Défi sécessionniste catalan. Le problème sous-jacent à ces trois crises, les principes d'une constitution conçue comme le point de départ d'une transition entre le franquisme et la démocratie, mais qui a fini par entraver le processus qu'elle devait rendre possible. On a connu textes plus démocratiques. Le système de l'aforamiento, par exemple, constitue une survivance de l'ancien régime, grâce à laquelle 17 000 personnes échappent à la justice de première instance et sont jugées par des tribunaux supérieurs plus sensible aux interventions du pouvoir exécutif. Similaire au statut exceptionnel qui protège en France le président et le gouvernement, il couvre en Espagne beaucoup plus de monde. Il couvre en Espagne l'ensemble des parlementaires, y compris ceux des parlements régionaux et des magistrats. Les partis politiques se voient également conférer un rôle fondamental dans la participation politique qui est prévu à l'article 6 de la Constitution et qui dépasse de très loin celui de concourir à la formation de l'opinion publique, comme dans la plupart des démocraties. Tandis qu'ailleurs, on conçoit la volonté générale comme le dépassement d'intérêts individuels, le système espagnol développe une vision organiciste du monde. Les masses doivent être encadrées pour former un peuple. Ainsi, le régime franquiste organisa-t-il la société autour du mouvement national et du syndicat vertical. Après la mort du dictateur, l'Espagne s'est ouverte au pluralisme politique et syndical, mais elle n'a pas changé fondamentalement la définition de leurs fonctions. Les citoyens votent pour une formation qui choisit ensuite ses députés sur une liste close, à proportion du score général obtenu. Et ces derniers n'effectuent pas de permanence dans leur circonscription. Moins que des associations d'individus cimentées par l'affinité idéologique, les partis politiques espagnols se structurent donc comme des corporations, peu perméables à l'humeur publique et blindées contre leur propre base militante. Comment s'étonner alors de leur degré de corruption? Les révélations liées à l'affaire Gürtel, 43 millions d'euros détournés au profit du Parti populaire, le PP, s'accumulent presque quotidiennement dans la presse depuis plusieurs années. Il ne s'agit pourtant que de l'un des innombrables scandales liés à une corruption devenue systémique. En 2014, la branche espagnole de l'organisation Transparency International avait demandé que soient débloquées les listes fermées des partis et que ces derniers publient leurs comptes de campagne dans les 3 mois suivant les élections. Appel resté, lettre morte.
De amores quiero levantarte un nido, oculto del mortal a la mirada, y ver lejos del mundo fementido la realidad de mi ilusión soñada. De amores quiero levantarte un nido, oculto del mortal a la mirada, y ver lejos del mundo fementido la realidad de mi ilusión soñada. Si el huracán entre las hojas zumba o el espacio oscurece la tormenta, al escuchar el trueno que retumba, te hablaré del amor que me alimenta. Tormentos o placer, yo todo anhelo. Si al tuyo está mi corazón unido, que un mismo sol alumbre nuestro cielo, o que rompa un mismo rayo nuestro nido. Tormentos o placer, yo todo anhelo. Si al tuyo está mi corazón unido, que un mismo sol alumbre nuestro cielo, o que rompa un mismo rayo nuestro nido.
Nostalgie républicaine. Mais doit-on s'étonner qu'à l'image du système des partis, Les institutions issues de la Constitution de 78 se limitent à un compromis entre démocratie et franquisme. Les pères du texte cherchaient avant tout à éviter que la guerre civile ne reprenne. Le projet recherchait par conséquent une base située entre le système de caciques typique de l'Espagne nationale catholique et la démocratie, à partir de laquelle basculer ensuite en démocratie pure à mesure que la société irait de l'avant. Au lieu de faire évoluer le texte de 1978, le pays l'a, au contraire, sanctifié. Depuis sa rédaction, l'Espagne n'a pas repris le travail constituant, une promesse que sous-tendait pourtant la transition démocratique. Certes, la société espagnole a abandonné les valeurs et le comportement qui la rattachaient à la dictature. 40 ans après la fin de la censure, on discute ici volontiers d'euthanasie, de questions de genre, de sexualité ou de consommation de drogues récréatives. La fréquence et la liberté de ton avec lesquelles les vedettes de télévision interpellent le pouvoir rappellent davantage les États-Unis que l'Europe catholique. Dans l'Espagne de 1978, tous les enfants n'étaient pas scolarisés. Les rues de bien des villes moyennes ne connaissaient pas l'asphalte. Certains quartiers ne recevaient pas le courrier. D'autres n'étaient pas raccordés au tout à l'égout. Les systèmes de transport en commun et de santé restaient rudimentaires. En 2017, la transformation économique, sociale et culturelle est manifeste. Mais tout entier concentré sur cette tâche, le pays a négligé le reste. L'accession au marché commun en 86 masqua l'absence de réforme constitutionnelle. Puisque la société était devenue démocratique en si peu de temps, n'était-ce pas que les institutions avaient atteint le bon équilibre? Dans ce contexte, le défi catalan, qui se présente comme un mouvement de sécession, tire son énergie motrice du fossé creusé entre les Espagnols et leurs institutions, d'un rejet de la corruption, pourtant aussi présente en Catalogne qu'ailleurs, sans oublier une hostilité particulière aux vestiges de l'absolutisme, encore nombreux en Espagne, où le roi, l'Église et les grands d'Espagne demeurent les principaux propriétaires terriens du pays et à ce titre bénéficient des aides européennes au développement des régions. 1,85 million d'euros de subventions en 2003 pour la pauvre Feu Duchesse d'Albe, dont le cinéma a montré le cynisme et tous les abus. Je la vois encore se balader, hein, se pavaner en Mercedes au milieu des enfants affamés, dépenaillés et en guenilles. La suspension du statut d'autonomie de la Catalogne par le tribunal constitutionnel de 2010 a constitué l'étincelle qui a embrasé la plaine catalane. À ce sujet, deux faits méritent d'être soulignés. L'un circonstanciel, c'est une requête judiciaire du Parti Popular lancée par Mariano Rajoy qui a déclenché la suspension à une époque où la formation de celui-ci avait atteint son étiage électoral et où lui-même subissait les attaques de ses opposants au sein du Parti Popular. Mariano Rajoy a alors entrepris de recueillir des signatures contre le statut de la Catalogne à travers l'Espagne, un type de provocation qui avait toujours fait recette au sein de son électorat le plus réactionnaire. C'est inimaginable pour nous. Il nous reste peut-être encore un tout petit peu de démocratie en France. Le second élément puise dans l'histoire. Il explique en quoi la suspension du statut d'autonomie a rouvert une vieille blessure et éclaire la stratégie du président de la Generalitat de Catalogne, Carles Puigdemont. Le 14 avril 1931, les républicains espagnols remportèrent les élections municipales dans la plupart des grandes villes, proclamant plusieurs républiques, dont la République catalane sous la houlette de Luis Companys, conseiller municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, ERC, gauche républicaine de Catalogne. En application d'un programme fédéraliste, ces républiques indépendantes proclamèrent la Seconde République espagnole, à laquelle Franco mit un terme. Une fois le dictateur mort, les républicains argumentèrent que la République fédérale demeurait le régime légal auquel il convenait de revenir. Et on s'est rappelé il y a 8 ou 15 jours que le régime de Franco n'avait jamais été, jamais approuvé par un vote. Il est resté là, illégal, pendant 40 ans. La question, tout comme celle de l'unité territoriale, fut réglée par un compromis. Les Catalans renonçaient à former une république fédérale et acceptaient aussi bien le régime monarchique, article 1.3 de la Constitution, que l'unité indissoluble de la nation espagnole, article 2, abandonnant le projet de déclarer unilatéralement leur indépendance comme en 1931. En contrepartie, ils obtenaient le droit de développer un statut d'autonomie et un droit civil propre, même s'ils demeuraient strictement encadrés. La réforme du statut d'autonomie élargissant les compétences de la Generalitat en 2006 a dû passer primo par son approbation ordinaire au Parlement catalan, secondo par une autre, à l'Assemblée et au Sénat espagnol, à la majorité qualifiée en plus, tertio par une ratification par un référendum. Bien que ses promoteurs aient rempli toutes les conditions, ce nouveau statut fut suspendu à l'initiative du Parti populaire en 2010. Dans un tribunal constitutionnel dont la majorité des membres avait été nommée par les conservateurs. D'où l'idée que l'on devrait la crise actuelle au coup de menton de l'aile dure du Parti Popular. Thank you.
acordar.
Jusqu'aux élections de 2015, la droite conservatrice CIU, issue de l'alliance entre Convergencia Democrática de Catalunya et Unió Democrática de Catalunya, jouissait d'un contrôle hégémonique sur le Parlement catalan. Eh oui. Avant 2012, elle avait toujours eu la sécession en horreur. Mais son dirigeant, Artur Mas, perçu dans la vague indépendantiste venue de la rue, alimentée par une austérité associée à Madrid, perçut un moyen de faire oublier les scandales de corruption qui avaient placé la CIU non loin du Parti Populaire dans l'échelle de l'opprobre. Et oui, la droite catalane, ça existe. La droite imagina un référendum en 2014 organisé autour d'une question admettant trois réponses. Unioniste, fédéraliste ou indépendantiste. Souhaitez-vous que la Catalogne devienne un État? Si oui, voulez-vous qu'il soit indépendant? L'annulation du dit référendum ne dérangea pas les conservateurs, quoi qu'ils en aient dit publiquement. Leur projet consistant à compter les votants, comme un syndicat dénombre les manifestants avant d'aller négocier le rétablissement des articles suspendus de les statuts d'autonomie catalan. Si elle récupérait le pouvoir à la faveur de possibles élections anticipées, que M. Rajoy appelle de ses voeux, cette frange de l'élite catalane se satisferait sans doute d'un retour au statu quo ante 2010 et la crise institutionnelle qu'elle abhorre par nature s'achèverait assez vite. Mais depuis 2015, cette ERC, l'Esquerra Republicana de Catalunya, dont la majorité relative ne tient que grâce au soutien de l'extrême gauche de la candidature d'Unité Populaire CUP, ce changement des équilibres internes explique l'apparition du régime républicain dans la question référendaire de 2017. Le changement d'attitude de Madrid et la radicalisation des positions depuis le 1er octobre. Dans ces circonstances, la récente proposition faite par le Parti socialiste et le Parti populaire de réformer enfin la Constitution convainc peu. Elle est perçue comme la plus infime concession imaginable par deux partis co-responsables de 40 ans d'immobilisme dans un pays au bord du gouffre. Et on ne peut plus exclure que la rue rejette un accord minimal. L'arrêt général du pays le 3 octobre, convoqué par les organisations patronales et les syndicats, jusqu'à la Confédération nationale du travail, la célébrissime CNT, anarcho-syndicaliste, avec les associations pro-indépendance, dit assez que le rejet des partis corrompus et des institutions obsolètes traverse toute la société. Ras-le-bol général. Et depuis l'autre bord, les manifestations anti-indépendance entendent elles aussi peser sur les débats en appelant la majorité silencieuse à se faire entendre. Stratégie de l'attention. Une grande partie des forces politiques et des médias espagnols donne l'impression de suivre Mariano Rajoy dans sa stratégie consistant à transformer le problème politique en un problème juridique s'appuyant sur les tribunaux supérieurs et à provoquer en même temps toujours plus de tensions. L'appel à la mobilisation permanente de certains leaders catalans ou la récente campagne de la CUP « Vivre signifie prendre parti » montre que la radicalisation enchante également d'autres acteurs du drame. Les charges policières du 1er octobre ont achevé de diviser l'Espagne en deux camps et chacun se voit depuis sommé de rejoindre le sien. Le 9 octobre, lors d'une conférence de presse du Parti Popular qui annonçait le rejet de toute médiation, le porte-parole du parti, Pablo Casado, avertissait le président catalan qu'il pourrait terminer comme Companys, fusillé par les franquistes, en 40. Alors ça, en matière de petites phrases assassines, on est pas mal servi chez nous, mais on n'en est pas encore arrivé là. Une semaine plus tard, les premières incarcérations ont eu lieu avec l'arrestation de Rordi Sanchez et Rordi Quichart, présidents de deux associations civiles pro-indépendance, Assemblea Nacional Catalana et Omnium Cultural, sous le chef d'inculpation de sédition. Un élément demeure troublant. Est-il entré dans le jeu de la tension en s'exprimant publiquement pour demander au gouvernement de M. Rajoy de rétablir l'ordre constitutionnel? La Constitution encadre normalement les prises de parole du monarque qui n'a pas d'autorité sur les affaires de politique intérieure. Son père était intervenu deux fois sur les ondes, mais jamais pour prendre parti. En agissant de la sorte, Philippe VI accrédite l'idée que la monarchie serait tombée dans l'orbite du Parti populaire dont elle n'avait jamais été très loin. Le choix d'une rhétorique agressive et d'un décor lourd de sous-entendus, le roi s'est exprimé devant le portrait de son ancêtre Charles III, qui imposa le castillan comme langue unique sur tout le territoire au XVIIIe siècle. Ce décor lourd de sous-entendus a contribué à échauffer davantage les esprits. La stratégie de l'attention de M. Rajoy répond davantage à un besoin de sauver son parti qu'au désir de régler la question catalane. De l'annulation de 14 articles du statut d'autonomie de la Catalogne en 2010 jusqu'aux événements les plus récents, sa constance à jouer les apprentis sorciers dans un pays mal guéri des blessures de la guerre civile a contribué à légitimer une option séparatiste qui, il y a peu, n'emportait l'adhésion que de 12% de la population catalane. Après l'échec du mouvement social de 2011 à impulser le changement politique nécessaire, après que la longue crise parlementaire de 2015-2016 s'est achevée sur la reconduction du gouvernement précédent, le défi catalan représente une menace, mais également une occasion, celle d'apaiser les tensions qui déchirent une société espagnole devenue pleinement démocratique, mais entravée par une constitution obsolète. Il faudrait pour cela, lever les yeux de l'actualité immédiate. Cela reste-t-il encore possible ? Je vous compacterai le long article de Sébastien Bauer qui est fait pour être lu avec les yeux et pas forcément pour être écouté. Et je vous mettrai tout ça sur la page de l'émission que vous pourrez retrouver sur donc www.canalsud.net comme d'habitude. Je vous remercie de votre écoute et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.